102-1.
Émission en jase, il est présentement midi 31 minutes. Pour nous joindre, 418-971-1021, vous le faites en grand nombre. Vous êtes inquiet de ce que Donald Trump pourrait faire après sa guerre en Iran? Je vous comprends. On ne sait pas vraiment où il s'en va. 418-780-101, c'est pour nous appeler. Citoyen à commercial blvd.fm. C'est pour envoyer un dossier au chum Mathias qui va le fouiller pour vous. Puis si c'est vraiment un dossier chaud d'actualité, haha, on va en parler en ondes. Vous pouvez être notre journaliste terrain ou l'être journaliste terrain de Mathias Turcotte, devrais-je dire. blvd.fm, c'est les meilleurs moments, c'est notre web radio. D'ailleurs, l'excellente discussion qu'on a eue avec Farnell Morisset et Lambert Drainville va se retrouver sur blvd.fm. Je viens de dire le mot excellent ou excellente pour la première fois de la semaine. Je m'étais fait dire, je le disais trop. C'est la première fois de la semaine, malheureusement, que je le dis. Je l'ai échappé en ce vendredi midi 32. BLVD 101, l'application App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube, nos podcasts. Tu sais comment je me suis corrigé? Je suis venu pour en dire exemple. Je dis, Colin, c'est rentré dans ma tête.
T'es content de ta programmation.
YouTube! Pour nos podcasts, notamment les podcasts sur les entrepreneurs, avec Joannie Fortin. En attendant que Mathias nous parle de ses travaux du RTC, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
La femme retrouvée inconsciente dans le quartier Montcalm mercredi matin est malheureusement décédée. Jeff, il s'agit de Jennifer Drouin, 42 ans, de Lac-Beauport. Elle se trouvait sur le terrain de la maison d'un des membres de sa famille. Les causes du décès sont toujours nébuleuses. La thèse criminelle serait écartée, mais les policiers ne peuvent pas révéler si la victime présentait des marques de violence, si elle était en état de consommation ou si elle aurait pu subir un malaise. L'acteur américain Chuck Norris est décédé à 86 ans. Il a été victime d'un malaise. Il a été hospitalisé hier à Hawaï. Maintenant, on apprend malheureusement qu'il a quitté ce monde. C'est une véritable star du petit et du grand écran. Chuck Norris, c'était aussi l'incarnation d'un certain rêve américain. C'est un homme qui est né dans une famille pauvre de l'Oklahoma en 1940. Son père, c'est un Amérindien alcoolique. Sa mère, c'est une Irlandaise qui a élevé seule ses trois fils. François Legault termine son mandat comme simple député de l'Assomption. Donc, il reste député. Il faut dire qu'en quittant son poste de député, M. Legault aurait renoncé à une prime d'environ 300 000 $ qu'il pourra toucher en terminant son mandat. Bernard Drainville s'engage à nommer un ministre de la Construction venant fusionner les responsabilités du travail et des infrastructures. Donc, ce ministre aurait sous sa supervision la Commission de la Construction du Québec, la CNESST, la Régie du bâtiment du Québec, le Bureau de normalisation du Québec, la Société québécoise des infrastructures et le Plan québécois des infrastructures. Je vous rappelle que le premier débat officiel de la course à la chefferie de la CAQ entre lui et Mme Christine Fréchette se déroule demain à Québec. Également, le RTC s'attend à ce que les trajets modifiés en raison des travaux liés au projet tramway aient un impact très limité sur ses utilisateurs. Je vais faire 3 points de suspension. Est-ce que les utilisateurs sont d'accord avec ça? Et c'est pour ça qu'on en parle avec Mathias Turcotte.
En effet, Mathias Turcotte, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Excellent. Mathias, Bruno Marchand a posté ceci, v'là quoi, partout à peu près une heure sur ses médias sociaux?
On est rendu peut-être à 3 heures. Il y a 3 heures, il mettait ça et c'est surtout parti des réseaux sociaux du RTC.
On l'écoute.
Ouais, on roule, let's go.
So what's your take?
Ça va être compliqué de se déplacer à Québec si on fait rien durant les travaux.
100% d'accord. Qu'est-ce qu'on fait?
Le 21 mars, on va changer 50 parcours, on va créer le 805, on va mettre des mesures préférentielles, des voies réservées, on va avoir un service stable et fiable pour le RTC.
Ça s'ajoute à 29 autres mesures où pendant les entraves, on va prendre soin de vous parce que c'est important.
Assis dans un autobus avec nécessairement un employé du RTC, on parle des travaux qui s'en viennent, des perturbations. Mathias Turcotte, t'es un journaliste sur le terrain, t'as eu l'excellente idée d'aller, puis là je l'ai dit excellente, puis je veux le dire parce que c'est vraiment une excellente idée de Mathias Turcotte d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens qui pérennent l'autobus à chaque jour puis qui vont être pris dans ces perturbations-là. Ils savent-tu ou ils savent pas que c'est là que ça arrive?
Mais ça, c'est intéressant. Puis vous allez voir, là, je vais vous présenter l'extrait de montage que j'ai fait sur cette question-là dans quelques instants. Mais je me suis concentré surtout sur le boulevard René Lévesque parce que le gros du changement pour ce qui s'en vient de demain, des nouveaux tracés du RTC, c'est vraiment le 800 et le 801 qui ne passera plus par René Lévesque. Donc le transit par autobus que beaucoup de personnes prennent par René Lévesque ne se fera tout simplement plus et sera remplacé par la 805. Qui est sur Grande Allée. Donc, le monde qui prenne l'autobus sur René Lévesque vont soit devoir aller sur Chemin Sainte-Foy, ou sur Grande Allée pour continuer à aller soit au centre-ville ou soit
à pied.
Vers l'Université Laval. À pied, exactement. Donc, je me suis rendu aux différents arrêts d'autobus sur cet axe routier-là pour savoir, pour demander aux gens quelques questions à commencer. Est-ce qu'ils sont au courant de ces changements-là qui arrivent demain, je vous le rappelle? Je vous laisse les entendre.
Oui, tout à fait, oui.
Ouais.
Je savais pas si à partir de demain, mais j'ai su que ça allait changer de trajet là, par la... plus haut, là.
Oui, malheureusement.
Oui, malheureusement, j'ai tenu au courant de ça et c'est assez... un peu problématique. Mais pas problématique, mais désagréable un peu.
Oui, je suis au courant.
Oui, je sais, ils vont passer sur la Grande Allée parce qu'il y aura les travaux préparatoires pour tramway. Oui.
Oui, oui. Ouais. Non, je n'étais pas au courant.
Bon, bonne note quand même au RTC, parce que je jure, on entendait à peu près une dizaine de personnes, 80% à peu près étaient au courant, donc
mais...
félicitations pour le RTC.
Ça dépend d'où ils l'ont appris.
Oui, ben faut dire, par contre, ça, faut leur donner, puis quand l'administration fait bien le travail, dans tous les arrêts d'autobus, ces nouveaux tracés sont affichés, c'est affiché jusqu'à quand l'arrêt d'autobus est fonctionnel
très
ou non.
Très bon travail.
Tu sais, je veux dire, la majorité, du moins, était au courant, parce que là, je tiens à vous dire, toutes les personnes à qui que j'ai parlé, c'est des utilisateurs fréquents.
Puis pour eux, ils avaient appris tout ça du RTC.
Du RTC, oui.
Bon, ben, là, effectivement.
Ben, du RTC ou des médias.
Ah,
dans le sens.
Okay.
Puis je veux dire, je pense que ça fait partie de ce travail-là. On informe les médias.
Oui,
les médias
ça fait
la
partie de la stratégie du RTC, en effet.
Exactement. Donc, de ce côté-là, c'est positif. Il y avait quand même des personnes qui n'étaient pas au courant.
Exactement.
La dernière fille que vous avez entendue, elle n'était vraiment pas au courant. Là, était que, je pense que ça a été une bonne nouvelle pour elle que j'y dise, parce que lundi, elle serait probablement allée au mauvais arrêt.
Une très large proportion sont au courant. Donc, bon travail du RTC. Par contre, maintenant, il y a des impacts. Puis on l'a entendu dans ton premier extrait où, oui, malheureusement. Et là, je connais bien la ville. Puis si je pars de René Lévesque puis je monte sur Grande Allée, il y a quand même une bonne pente à monter. Ça doit faire partie des impacts.
Ça fait une bonne marche, puis vous allez l'entendre. La question, c'est comment ça change leur quotidien. Et c'est notamment à une distance de plus de marche.
Pas négativement. Je vais devoir, je pense, marcher un petit peu plus.
Ce qui me fait le plus peur, c'est les travaux et le temps que ça va durer, vu que je vis sur le boulevard aussi. Donc, le bruit, le dérangement, tout ça. Là.
C'est sûr que ça va être plus de marche pour moi pour me rendre à mon endroit, mais s'il faut, il faut.
C'est sûr que ça va faire un grand impact, surtout le fait que les arrêts vont être beaucoup plus loin qu'ils étaient supposés être de base.
J'aurais juste 10 minutes de marche en plus. Ça changera pas grand-chose, juste ça sera un bus différent.
En le sachant d'avance, c'est pas si pire, mais c'est ça. De pas le savoir, ça, c'est... ça aurait pu être problématique lundi matin.
Il y a rien de prévu pour la RTC hein, pour monter cette côte-là. T'sais, ils ont des petits autobus, là.
Ouais.
Ils auraient pu mettre un petit autobus là en permanence. Le monde qui veut pas monter rentre là-dedans, puis le chauffeur... les montres quand il y a une couple de personnes dans l'autobus?
Ça aurait pu être une option, oui, parce qu'on entend des réponses, puis le monde sait, je vais me déplacer, je vais faire ma distance de marche de plus, puis honnêtement, les retours étaient plutôt positifs. Là, je tiens à dire, c'est le monde aussi qui était enclin à me parler, fait que c'est peut-être un monde un peu plus positif.
Ouais, t'as pas été reçu de la même manière par tout le monde
non,
dans tes questions.
Ça.
Mais là, on parle, tu sais, on n'a pas entendu de famille, on n'a pas entendu quelqu'un à mobilité réduite, on n'a pas entendu des gens avec peut-être certains problèmes complexes. Là. C'est tous des gens qui peuvent marcher 10 minutes.
Ben, c'est ça, exact. C'est pour la majorité du temps des personnes qui sont seules. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, que c'est des jeunes qui prennent l'autobus pour aller à l'Université Laval par la suite, parce que c'est un axe routier où il y a beaucoup d'appartements étudiants, puis que les étudiants, dont beaucoup n'ont pas de voiture.
Exactement.
C'est très efficace de prendre l'autobus puis de se rendre directement à l'université. Donc, je veux dire, ces personnes-là, marchant à 10 minutes de plus, c'est tannant.
Mais je pense aux personnes âgées
c'est
aussi.
C'est tannant, mais c'est ça, les personnes âgées...
C'est ce qui ressort par texto, c'est ce que j'avais en tête.
C'est là que vient le problème, c'est là que ça devient plus difficile pour eux, c'est sûr.
Le tramway est très polarisant à Québec, il l'était d'autant plus cette semaine, entre Sylvain Junot, le maire de Saint-Augustin de Desmaures, et Bruno Marchand, le maire de Québec. C'est quoi l'opinion des utilisateurs du transport en commun pour le tramway?
Ben c'est l'opinion par rapport au déplacement du RTC puis par rapport aux travaux qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Voici leur réponse.
Moi, je suis très en faveur de la construction du tramway. J'ai très hâte de pouvoir l'utiliser.
Et c'est sûr que là, ça ne nous accommode plus du tout. Là, on marche plus longtemps. Donc, ça change toutes nos habitudes de vie. C'est pas une bonne chose. Là. À court, moyen terme, c'est pas une bonne chose.
Ce que je pense, c'est qu'on s'adapte pour un meilleur changement. Je pense que Québec a besoin d'un tramway.
Que c'est étonnant, mais que c'est bien parce que ça permettra d'avoir le tramway après, même si ça sera dans plusieurs années.
Bien, ça peut être commandant pour aller à l'université, mais je sais pas. Faudrait que je regarde c'est quoi les alternatives qu'ils proposent.
Très intéressant, honnêtement, Mathias, comme question. Ça vient montrer l'équilibre qu'il y a dans la population. Même sans les sondages, il y a un déséquilibre. C'est sûr que pour ceux qui prennent déjà le transport en commun, ils vont être heureux du tramway. Par contre, on l'entend bien, il y a des perturbations. Et ça, Bruno Marchand, il faut que je lui donne, il ne se l'est pas caché, il l'a dit, on embarque dans 7 années de chenoute et de perturbations.
Oui, 100%. Puis honnêtement, en sortant sur le terrain, je m'étais dit à quel point les personnes vont être au courant ou non des changements, à quel point là, ça va déranger des personnes. Puis j'en ressors, j'ai parlé à environ une douzaine de personnes là, sur le terrain aujourd'hui, puis j'en ressors avec la majorité du monde savent des changements, la majorité du monde, c'est pas parfait, mais garde, on s'adapte, puis c'est pas la fin du monde, c'est encore une fois, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, mais pour ces personnes-là, ce que j'ai reçu aujourd'hui, ben, c'était pas nécessairement qu'on était fermé puis qu'on était briqué puis oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. C'est, garde, on va s'ajuster puis c'est la vie. C'est un peu ça l'opinion.
Rappelle-nous en terminant quelles sont justement les perturbations les plus importantes. Parce que là, on reçoit un texto de Bruno qui nous dit « Hey, le 805 n'est pas supposé partir de la base ville. Clarifie-nous ça, s'il vous plaît. »
Oui, ben c'est ça. C'est le 801 et le 800 présentement qui font le transit entre Pointe-Sainte-Foy vers le centre-ville. Ça, ça va plus passer par René-Lévesque. Le 800, 801 va se concentrer au centre-ville seulement. Va être remplacé, par contre, par un nouveau trajet qui va faire ce transit-là. C'est le 805 qui va partir de Pointe-Sainte-Foy, justement, qui va traverser par Grande-Allée pour aller au centre-ville, colline parlementaire et tout. Donc, c'est ça, le nouveau trajet. Donc, à partir de maintenant, si vous partez de Sainte-Foy, vous voulez aller au centre-ville, c'est soit le 807 qui passe par Chemin-Sainte-Foy, soit le 805, le nouveau trajet que vous allez devoir prendre qui passe par Grande-Allée pour vous y rendre. Également, à noter que les voies réservées sur boulevard René-Lévesque pour les autobus vont être déplacées sur Grande-Allée. Donc, les voies réservées aux autobus à voie de circulation automobile et les voies réservées sur Grande-Allée vont enlever une voie de circulation, évidemment.
Mathias Surcotte court au studio de Week-end 91.9 pour aller raconter justement ces perturbations. Et on se reparle tout à l'heure pour ton dossier sur les escaliers à Québec.
Yes, sir.
Good. Merci, Mathias. Good job, comme à l'habitude.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Si vous voulez être informé sur Québec, c'est ici que ça se passe. C'est à Boulevard 102.1, c'est à l'émission On en jase, de midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV. Pascal, on parle beaucoup de Québec. On va en reparler avec Mathias au niveau des escaliers qui sont désuets. Mais là, faut absolument parler du nouveau scandale informatique. Et non, ça ne touche pas le gouvernement du Québec, ça touche le gouvernement fédéral. On en avait parlé déjà voilà un bon mois ici à On en jase sur Boulevard 102.1. Mais là, les coûts explosent.
Ouais, ben, on a connu le fiasco SAQ Click du gouvernement. Là, le projet QRAM, la facture pour sa part est passée de 1,75 milliard à 6,6 milliards de dollars. Et ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. La presse a rapporté ce matin qu'Ottawa, c'est pas l'ampleur des coûts de fonctionnement du système de prestations QRAM. Une fois qu'il sera terminé, ça c'est après 2031, on ne le saura pas nécessairement parce que la facture continue de grimper considérablement et devrait continuer de grimper après la fin du déploiement. C'est là où les experts qui ont été consultés par la presse parlent des dépenses à prévoir pour l'exploitation de QRAM avec un certain goût amer. Donc, après son développement et après son déploiement, ça ne sera pas négligeable le nombre de dépenses qu'on va ajouter. Il y a un professeur associé au département d'informatique de l'UQAM, Louis Martin, qui lui a dit « Généralement, on parle de 10 à 15 % des coûts de développement initiaux par année, mais selon la règle, les coûts de fonctionnement pourraient donc dépasser les 660 millions de dollars par année. » C'est énorme et ça risque d'être un fiasco financier encore.
Pour en parler avec nous, le député du Parti conservateur du Canada, Éric Lefebvre, député de Richmond-Arthabasca, qui est sur le dossier de QRAM depuis plusieurs semaines. Monsieur Lefebvre, merci de participer à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation.
Fait plaisir. Monsieur Lefebvre, 6,6 milliards, c'est ce qui est prévu actuellement. C'est pas du tout ce qui était prévu au début. Mais là, les experts disent on va dépasser en moyenne d'à peu près 600 à 700 millions de dollars par année. Fait que si mon calcul est bon, on va peut-être finir aux alentours de 10 milliards pour Curam. Ça fait aucun sens.
Mais je vous dirais, c'est encore pire que ça parce que les coûts de fonctionnement ne vont pas arrêter. C'est des coûts de fonctionnement annuels. Puis vous l'avez bien dit d'entrée de jeu qu'on parle habituellement de 10 à 15 du développement initial. Donc, ça va être entre 660 millions par année à 1 milliard de dollars par année pour les frais d'opération de ce système-là. On ne sait pas si les licences de logiciels sont incluses. On n'a pas d'informations au niveau de la formation, l'hébergement au niveau du nuage informatique. Alors, naturellement, ça fait 2 mois, moi, je suis sur le dossier, puis j'ai encore beaucoup de questions cette semaine-là pour le gouvernement libéral pour ce dossier-là.
Pourquoi on est aussi pourri?
Écoutez, moi, là, ma question, c'est tout ce qui est qui a pris ces décisions-là. Tu sais, quand on dit que la soumission était à 1,7 milliard, puis ça finit à 6,6 milliards, il y a quelqu'un qui a signé là une soumission qui a accepté ça. Moi, je veux savoir la chaîne de commandement, qui a accepté ces dépassements de coûts-là. Je veux voir la chronologie avec les gens qui sont impliqués. Puis quand moi, qu'on me dit qu'il y a des fonctionnaires qui donnent de l'information, mais le ministère interdit de donner le nom du responsable. C'est ça la transparence du gouvernement? Mais ça, pour moi, c'est inacceptable. Puis je vais avoir des questions là cette semaine pour eux.
Oui, d'ailleurs, à cet effet-là, je vous fais entendre un extrait de Mark Carney à la Chambre des communes. Ça parle du Bloc québécois, mais je sais que vous questionnez beaucoup. Puis on va voir l'extraordinaire transparence de notre premier ministre.
Monsieur le Président, c'est curieux. Le gouvernement a déjà offert une brevetage au Bloc. Sans réponse. Il n'y a pas de réponse pour une brevetage. Il y avait des discussions dans les comités. Oui, c'est intéressant, ça. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une discussion avant une enquête.
Le petit rire qu'on entend à la fin, M. Lefebvre, c'est Stephen McKinnon, le leader parlementaire. Il est en train de rire du contribuable qui va voir des milliards de dollars perdus dans ce projet-là.
Oui, et lui, en réponse, a dit que c'était un dossier qui était exceptionnel. Mais tout ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est la hauteur du fiasco financier dans lequel les libéraux nous ont apporté dans ce dossier-là.
Parce que dans les faits, comme vous l'avez dit, on ne sait pas les noms des responsables. Et là, les libéraux disent « on va vous donner un brevetage parce que ça va bien ». Mais ça prend une commission d'enquête à la SACLIC. C'est encore pire que ce qu'on a vu au Québec.
Ben écoutez, cette ligue, on parle de 500 millions. Ici, on parle de 5 milliards de dollars de dépassement de coûts. Là, jeudi prochain, on va avoir la ministre de l'Emploi et du Développement social, Patsy Abudu, qui va être là. Le ministre des Travaux publics de l'Approvisionnement, Joël Lightbound. Et là, ils vont être en comité, puis ils vont être là pour répondre à nos questions. Puis moi, à la période de questions, ce que je demande depuis le début, c'est que là, maintenant, les libéraux le savent, là, qu'il y a un dépassement de coûts de 5 milliards. J'ai dit, qui va prendre le leadership de ce dossier-là? Là? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se lever? Puis je laissais passer des secondes. Qui est prêt à se lever? Puis j'attendais. Puis il n'y a pas personne qui a osé se lever puis dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je m'attends, c'est que le premier ministre Carney dise, comme bon gestionnaire, ça n'a aucun bon sens ce qui se passe présentement. Puis comme premier ministre, je vais mettre le nez dans ce dossier-là puis je vais aller chercher des réponses.
Mais tu sais, il y a quelque chose de très important là-dedans. Parce que là, on parle juste des dépassements de coûts. Mais on semble être médiocre quand on arrive à parler de technologie. Au fédéral et au provincial, on semble être médiocre. On ne sait pas combien ça coûte. On accepte de se faire charger des prix faramineux par des firmes privées, des gens qui vont travailler sur le dossier, qui pèsent un peu peut-être sur le crayon en se disant « le gouvernement va accepter quand même ». Il y a toute l'ère technologique qui est importante à voir là-dedans aussi.
Non, mais écoutez, on va prendre un autre exemple. ArriveCan, souvenez-vous l'application ArriveCan. La soumission était de 86 000 $. La facture finale, 60 millions de $.
Mais il est là le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des gens qualifiés qui savent à peu près ça coûte combien, comme dans des firmes privées qui sont capables de... Tu sais, on avait le panier bleu, nous, au provincial, qui a coûté X pendant la pandémie. Il y a des gens qui travaillent là-dedans au privé qui l'ont refait pour le 1/8e. Du coup, ils l'ont appelé panier brun. Il est encore en ligne. Puis ils ont voulu démontrer à quel point on est pourri puis qu'on ne sait pas on connaît pas le domaine technologique, puis qu'on signe des affaires à la va-vite, pourquoi est-ce qu'on travaille pas aussi à l'intérieur même de nos paliers gouvernementaux pour avoir des bons pions qui connaissent ces projets-là de structure technologique? Parce que c'est pas juste dépassements de coûts le problème, faut retourner à l'épicentre du problème, là.
Oui, absolument. Puis vous le dites, là, ils ont fait évaluer le système QRAM par les employés de l'État qui l'utilisent, puis ils ont donné la note de 10 %. Fait qu'on a un dépassement de coûts de 5 milliards, puis le logiciel ne fonctionne pas. On avait 86 000 aînés qui attendaient leur chèque depuis 8 à 9 mois.
C'est un SAAQ 2. C'est un SAQ clic 2, là, cette fois-ci au fédéral, puis c'est encore les mêmes problèmes de ne pas être capable de gérer cette portion technologique-là.
Oui, mais au-delà de ça aussi, c'est que il y a une responsabilité ministérielle. Quand ça relève de ton ministère, là, tu te dois d'aller chercher les réponses. Alors moi, là, les ministres responsables, puis moi, dans un scandale comme celui-là, je passe au-dessus du ministre responsable. Là, c'est le premier ministre lui-même. C'est un scandale de 5 milliards. Le premier ministre doit aller demander des réponses puis de trouver qui a donné et a autorisé ces scandales de dépassement de coûts-là. C'est inadmissible. Puis ça finit que c'est tout le monde qui paye. Tout le monde qui paye. On a passé la dette du pays à l'arrivée des libéraux de 700 milliards de dollars à 1400 milliards de dollars après 10 ans.
On l'a doublé, non. Puis il faut que Mark Carney réponde à la pression, comme François Legault l'a fait dans le cas de Satlick au provincial. Pour rappel, on parle avec Éric Lefebvre, député de Richemont-Tabasco pour le Parti conservateur du Canada. Hey, parlant du provincial, M. Lefebvre, êtes-vous encore membre de la CAQ?
Ah, écoutez, j'avais une carte de membre qui était bonne pour plusieurs années, mais disons que maintenant, je fais de la politique fédérale. Je me suis éloigné du provincial. Là, je regarde ça.
OK, parfait. Donc, vous n'irez pas voter pour le nouveau chef de la CAQ, que ce soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette?
Non, du tout. Je me positionnerai pas. Je vais laisser les membres de leur formation politique faire leur choix.
Excellent. Vous avez trouvé comment jusqu'à présent la course à la chefferie de la CAQ?
Ben écoutez, là, il va y avoir encore des débats qui vont être faits. C'est toujours, peu importe la formation politique, lorsqu'il y a une course à l'intérieur d'une formation, ça déchire, on le voit, là, que la formation des députés, des ministres se place dans chacun des partis. Alors, c'est toujours, après ça, c'est la personne qui va gagner, c'est de réussir à rallier les membres de sa formation politique. Ça, c'est le défi de toute une formation.
Et dernière question pour vous, comment ça se passe dans un comté comme Richemont-Arthabasca, qui au fédéral est représenté par le Parti conservateur du Canada, mais au provincial est représenté par le Parti québécois avec Alex Boissonneau. C'est quoi les relations qui se créent entre les deux députés, même si vous avez des aspirations complètement différentes avec notre pays?
Oui, ben absolument, vous avez raison au niveau des aspirations. Par contre, Alex et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Alex Boissonneau était journaliste, donc j'ai eu la chance d'échanger régulièrement avec lui. Puis je dois vous avouer là qu'on a développé une très belle relation d'amitié et de respect. Puis moi, je dis toujours, à partir du moment où les citoyens et citoyennes ont choisi leurs députés, on est les députés de tous les citoyens. Fait que moi, quand Alex a été élu, j'ai été lui faire le transfert de tous les dossiers provinciaux. Je lui ai dit lesquels qui avaient un peu plus de sable dans l'engrenage, lesquels avançaient bien, puis lesquels où est-ce que je pense qu'il y aurait du travail à faire. Parce que mon objectif ultime, c'est que les dossiers se règlent. Fait qu'on travaille en étroite collaboration ensemble pour notre région.
Bien, félicitations, M. Lefebvre. Et continuez à questionner, à mettre de la pression sur le gouvernement fédéral du Parti libéral pour qu'on ait cette commission d'enquête-là sur QRAM. C'est un vrai fiasco informatique. Merci pour votre temps.
Ben, ça me fera plaisir de vous donner la suite si j'ai des réponses pour vous.
Hey, bien sûr, lâchez-moi un petit texto, puis ça me fait plaisir de vous mettre en onde.
Au plaisir.
Excellent plaisir, au revoir. C'était Éric Lefebvre, député de Richemont-Arthabasca au niveau du fédéral pour le Parti conservateur du Canada. On revenait sur ce dossier QRAM qui va faire encore une fois beaucoup la manchette à la Chambre des communes la semaine prochaine.
Pour des cochonneries qui vont être mal montées, qui ont été évaluées à 10 % de rendement dans le sens où d'efficacité puis de bien d'être bien mise en place, 10 % seulement. Il y a un auditeur qui a envoyé que c'était 159 $ par Canadien qui avait été investi. J'ai vérifié, j'ai fait le calcul, c'est 159 $ par Canadien. 6,6 milliards de dollars, ça correspond à quoi?
Ah,
ça correspond au World Trade Center.
Ah,
tu les construis, qui était entre 4 à 6 milliards de dollars, OK?
Bon.
Ça correspond au pont Samuel de Champlain à Montréal.
Pas mal.
C'est même plus parce que le pont est à 4,2 mm-hmm. milliards.
Pas mal plus utile qu'un système à 10 % de réussite.
Ça correspond au Big Dig du côté de Boston, qui était à 15 milliards. Fait que beaucoup moins cher, on s'entend là.
Ben oui.
Le pont de Hong Kong était beaucoup moins cher en Chine que le 6,6 milliards de dollars pour Curran.
Merci pour les comparaisons. Les comparatifs, ouch! Ça frappe, c'est pour ça que ça prend une commission d'enquête. C'est pas parce que c'est dans le nuage numérique que ça n'existe pas, cet argent perdu.
Quand on dit que c'est aussi le tiers du tramway à 4,2 milliards.
Oui, aussi. Ah, ce tramway.
Quand on se compare, on se console pas.
C'est ça. À Boulevard 101, du lundi au vendredi, on jase à l'émission d'En Jase, évidemment, de midi à 14h, mais aussi dans tout le reste de notre programmation, parce que c'est Marceau le matin de 6h à 10h, le point de max de 10 à midi, Gravel dans le retour de 14h à 16h, et on a Marceau le soir de 18h à 19h. Mais à partir de ce soir, à partir du vendredi, on vire rock pas à peu près. Ça commence à 18h ce soir avec le Garage à Dan, animé par la légende vivante Dan Caron. On revisite les grands classiques du rock and roll. Les samedis et dimanches, de 7h à 10h, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. Version beaucoup plus smooth avec de la musique acoustique.
Ça, c'est ton coup de cœur du week-end.
Mon coup de cœur du week-end, il n'y a pas de doute. 15h, les samedis et dimanches, de 10h à 15h, c'est le Boulevard du Rock. Dan Caron, qui est là les samedis. Colosse, qui est là les dimanches. Et nouveauté sur notre antenne, les Colosses du Rock, animés par nul autre que Colosse. Ça, là, c'est des tunes qui bûchent un peu plus, là, comme la tune que je te fais jouer là, Pascal Sévé. Come on, feel the noise! Hein? Pourquoi, Pascal, j'ai mis Come on, feel the noise? Ah! Parce que ce week-end, vous pouvez gagner des billets pour aller au show de Quiet Riot, le groupe qui chante Come on, feel the noise, et Haldo Nova, l'Agora du Port de Québec, le 7 août prochain. Vous aurez également des billets que vous allez pouvoir gagner pour aller voir le show de Julie Talk au Théâtre Capitole le 29 mars. Alors, restez à l'écoute de Boulevard. Toute la fin de semaine, c'est le meilleur rock en ville qui se passe ici. Deux sujets qu'on va traiter après la pause. Éric Ouellette, notre spécialiste en conflits militaires. Que va-t-il se passer en Iran dans les prochaines heures avec le détroit d'Ormuz qui est toujours fermé? Et le sport avec Alex Laramé. Ich, défaite crève-cœur du Canadien hier. Bévue de Mike Madison. Pire bévue que ce que Max Larouche a pu faire dans le match de Boulevard.
J'allais dire, vas-tu aussi commenter la game des essoufflés?
Ça, on va en parler certainement. T'étais la coach. Tout ça au retour de cette pause à Boulevard 102, l'émission d'En Jase.